46 ans. J'ai pris ma première licence de rugby en 1985 et je suis éducateur depuis 1991. Donc on est arrivé avec ma femme en 1999 à Vierzon. Et depuis maintenant 11 ans, je suis éducateur au SAV. Et donc on a monté notre équipe féminine avec Benjamin il y a 4 ans. D'abord au sein de la section sportive du lycée Édouard Vaillant. Et puis ensuite après, on est parti dans l'aventure en club.
D'accord. Donc l'année dernière, vous avez eu une belle saison quand même. Je trouve que vous avez effectué une belle saison. Est-ce que y a-t-il des changements cette année au sein de votre effectif ?
Alors déjà, revenons un peu sur le parcours de l'année dernière. C'est vrai qu'on ne nous attendait pas à ce niveau-là. Nous avons terminé en finale de championnat de France, hein, en championnat 10 avec nos cadettes, donc au bout de 2 ans. Donc il faut quand même d'abord commencer par rendre hommage quand même aux filles qui ont démarré la première année. On les avait engagées dans un championnat qui était très dur. On les avait mis en élite championnat 15. Elles n'avaient jamais joué au rugby, elles ont fait preuve d'une vaillance extraordinaire et c'est elles qui ont donné l'impulsion pour l'année dernière. Donc on a cumulé par rapport à ça 2 finales de championnat de France, une en club et une avec la section sportive où là on a affronté tout le gratin de la France avec Montpellier, Dax, l'USAP et nous terminons en fait 8e sur 12, ce qui était très bien parce que
bien sûr.
On est resté juste pile poil derrière les grandes formations et on a relégué les autres. Donc on était assez content de.
Ah, puis on a rencontré les 2 finalistes en plus, La Rochelle et Montpellier. Donc c'était vraiment les deux grosses écuries de la compète. Hein. C'était compliqué. Mais bon, elles étaient vaillantes pendant toute la compétition, elles n'ont pas rechigné. C'était impressionnant, on est fiers. On est vraiment fiers d'eux.
Et ça, c'est juste dû à un collectif exceptionnel ou aux éducateurs qui sont exceptionnels? Parce que des filles des personnes qui n'ont jamais joué, que ce soit homme ou fille, hein, d'ailleurs, homme ou femme, c'est pas trop le problème. Mais quand on n'a jamais joué à un sport, c'est quoi? C'est que vous êtes tombé sur des filles qui étaient exceptionnellement douées ou c'est parce que vous avez su transmettre?
Le rugby, c'est une affaire de rencontre, en fait. On allait recruter au niveau des collèges des garçons pour étoffer un petit peu notre section. Et puis, certaines filles sont venues nous voir en nous disant « Pourquoi vous n'ouvririez pas une section sportive pour les filles ?» On leur a dit « Si vous êtes au moins 8, on démarre. » Et elles sont arrivées, elles étaient 30. Donc, c'était un peu compliqué. Et on s'est dit « Bon, 30, normalement... progressivement, l'écrémage faisant, on sera peut-être plus qu'une vingtaine. » Et à la fin de l'année, on était 45 au niveau du lycée. Et des filles qui avaient un énorme tempérament, qui venaient de sports très différents. On avait des nageuses, on avait des handballeuses, on avait des danseuses, des footballeuses, des filles qui n'avaient jamais joué. Et puis finalement, l'alchimie s'est faite. Et puis tout s'est bien passé. On a commencé par leur transmettre un petit peu, à dire, les valeurs vierzonaises. Le combat, le plaquage, et puis progressivement, on leur a donné un petit peu plus d'intention au niveau du maniement du ballon, et ça s'est bien passé. C'est vraiment le rugby, c'est une aventure humaine. Soit ça passe, soit ça passe pas.
Et vous parlez d'un engouement pour le rugby féminin sur Vierzon?
Je sais pas, non, c'est vraiment, on vient les chercher, parce que sinon, c'est ce qui manquait ces dernières années dans les clubs, en fait, c'est qu'on vient plus chercher les joueurs ou les joueuses. Donc nous, on se permet de faire ça et c'est vrai que ça nous réussit. Donc si on pense cette réussite, c'est grâce à ça. C'est juste ça.
Donc quelque part, c'est votre travail qui fait que.
Non, bah après, nous vraiment.
Non, mais on va vous jeter des fleurs quand même. Hein, c'est pas grave.
Mais je pense que tu vois, on leur donne. En fait, les joueuses, elles sont venues. Elles ont eu. En fait, elles donnent tellement d'envie dans ça, tu vois. Du coup, que c'est elles qui font tout. Nous, on leur donne un bagage ou. Mais ce qu'on leur donne le plus, c'est de la confiance en elles. Du coup, quand elles sont sur un match, elles ont tendance à vite s'écrouler si elles commencent à prendre un essai. Et du coup, nous, on doit vite leur reparler, leur redonner confiance. Et c'est ce qui fait qu'elles font ça. Mais c'est vraiment les filles qui font tout. Mmh. Nous, on les regarde, on est fiers. Ouais.
On doit vraiment adapter aussi nos règles de coaching par rapport aux garçons, parce que c'est vrai qu'elles sont dans une approche très 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 réflexive. Il faut leur expliquer pourquoi on doit faire tel geste, et ensuite après, une fois qu'elles se sont appropriées le projet, je ne veux pas dire que ça roule tout seul, mais on n'a pas grand chose à faire derrière. On est juste là effectivement pour leur donner les éléments techniques qui leur manquent. Quoi.
Donc plus simple à entraîner les filles ou les garçons en fin de compte?
Alors, c'est des plaisirs qui sont très équivalents quand même. Je peux pas dire que je préfère entraîner les filles ou les garçons. J'ai entraîné auparavant, et Benjamin aussi. On s'est rencontrés comme ça. On avait chacun une génération extraordinaire. Lui, il était avec ses moins de 8, moi j'étais avec mes moins de 12. Les deux sont rentrés sur une finale à Robert Barrand, sur un challenge qui était très relevé. On s'était promis, parce qu'on se connaît depuis longtemps, hein, on s'était promis qu'on ferait un truc ensemble. Et puis, quand on promet les choses, il faut les faire. Surtout quand on est avec les bonnes personnes.
Et bah c'est parfait. Et puis bon, cette année, au niveau de l'effectif, vous êtes combien environ cette saison au rugby féminin?
On est une vingtaine en tout, en moins de 18. En moins de 15, on est à 12. Et ça va progresser encore, ça va augmenter. On attend encore des licences.
D'accord, donc il y a encore des arrivées qui vont arriver au fur et à mesure.
Oui, on a une cinquantaine de filles à peu près qui sont inscrites au niveau du lycée en section sportive. Alors toutes ne vont pas faire le pas cette année d'une prise de licence en club, mais... on va se mettre sur leur dos pour qu'elles changent d'avis rapidement. Parce qu'il y a encore de gros, gros, gros potentiels qui arrivent en seconde. Quoi.
Et avec ce potentiel et ces filles cette année, vous avez quoi comme objectif sur la saison 2019-2020?
Bah, clairement, je pense que si au championnat où on est inscrit à 10, où pour le moment il n'y a pas de championnat de France cette année, et ça a été annulé pour le moment. Et comme objectif, on a l'objectif de devenir championne Grand Ouest, je pense. Ouais. Ouais. On s'est pas menti, on a fait un stage en début d'année, on a dit aux filles quel est votre objectif. Au départ, c'était d'arriver jusqu'au championnat de France, il n'y a plus de championnat de France, et du coup l'objectif s'est transformé en champion Grand Ouest.
Et comment ça se fait que c'était annulé? Ça reviendra l'année prochaine ou...
Les choses sont encore en discussion, et on est quelques-uns dans les clubs à remuer ciel et terre pour que ces championnats de France soient maintenus. Bien c'est sûr. Un appel que nous faisons d'ailleurs au niveau de la fédération, on trouve ça... tout à fait discriminatoire que, alors que les garçons en moins de 10 conservent, non, championnat à 10 conservent leur championnat de France, il n'y a pas de raison que les filles ne puissent pas concourir. Donc, on ira jusqu'au bout, hein. On va engager des procédures, on va d'abord leur parler gentiment parce que au niveau de la Fédé, il y a des gens de bonne consistance qui vont nous écouter, mais si on nous écoute pas, tu me connais, hein, on va faire ce qu'il faut. Par contre, après, il faut que les filles, elles fassent ce qu'il faut sur le terrain pour pouvoir y accéder. Voilà. Et en moins de 12, oui.
Oui, non, c'était quoi les arguments qui ont été avancés pour...
Les arguments sont des arguments davantage financiers, c'est-à-dire que la fédération rembourse les frais de déplacement des clubs, pas en partie simplement, hein, lorsqu'ils sont en phase finale, et ils trouvent que ces déplacements sont trop onéreux. Le problème, c'est que si on enlève le bout de bois aux gens qui concourent, toute la vie, on rêve de le soulever, ce bout de bois. Qu'on soit joueur, qu'on soit entraîneur, qu'on soit joueur en quatrième série, en top 14, tout le monde veut soulever le bout de bois. On nous enlève ça, on nous enlève notre ADN, on nous enlève un peu nos rêves. Et c'est ce qu'on essaie de leur dire actuellement en disant, vous pouvez pas nous empêcher de rêver. On sera peut-être jamais champion de France, mais il faut au moins... qu'on nous donne la possibilité de concourir dans cette compétition. C'est pas possible.
Oui, au moins la possibilité de participer. Et puis comme vous le disiez, moi, personnellement, je sais pas toi la buvette, mais je trouve ça assez quand même discriminatoire et un peu scandaleux quand même.
C'est un peu aberrant même.
C'est ça, aberrant,
on
exactement.
Pas trop. Est-ce qu'il y a toujours cette démarche qu'il y avait dans le... Enfin, qu'il y a toujours, je pense, dans le rugby masculin? Est-ce qu'il est toujours pareil dans le rugby féminin? Quand on se déplace à l'extérieur, on est toujours reçu de la meilleure des façons. Enfin, moi, j'ai des amis rugbyman qui nous racontaient les troisièmes mi-temps qui étaient... je vais pas dire... mais qui étaient tout aussi importantes que les deux premières, on va dire. Est-ce que ça existe dans le rugby?
Ça existe encore, bien sûr. Ouais. Et puis... en fait, pour bien recevoir une équipe, il faut déjà bien la recevoir pendant le match, c'est-à-dire on peut faire une réception un petit peu rugueuse, mais ensuite après, une fois que le match est terminé, on part dans une dimension plus festive. On dit bien qu'on n'a pas des adversaires, mais on a des partenaires de jeu. Les gens qui sont en face de nous sont nos amis, forcément, on partage la même passion.
Et personnellement, je l'avais remarqué pour te dire, ce que c'était l'année dernière ou il y a deux ans, si je me trompe, c'était les SAV, les filles qui affrontaient le Stade français. C'était l'année dernière, c'est ça?
Ouais, c'était il y a deux ans.
Il y a deux ans déjà, ça passe vite. Ouais. Et à la fin du match, toutes les filles des deux côtés se sont jetées dans la boue ensemble. Et je trouvais que c'était une belle image et c'est ça le rugby en fait.
Ouais, tout à fait. Et puis c'est dans ce sport, on voit une autre mentalité quand même, hein, qui est quand même, comment dire, des valeurs de solidarité, si ouais. Je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est bien que ce soit développé, notamment à Vierzon, et que ça reste dans le rugby quand même. C'est très important. Enfin, moi, je trouve, le sport, c'est comme ça. Voilà.
On explique bien avec Benjamin que la performance sportive est une chose, mais c'est l'aventure humaine qui nous pousse.
Bien sûr.
Pas autre chose.
Ouais, à la fin du match, on a tendance même, des fois, même exagérer le truc à plus féliciter l'équipe adverse que notre équipe nous-mêmes. Donc, du coup, on vient, on les félicite, à la fin, on fait tous une ronde ensemble, on a tendance à tous communier et à bien et à accepter le fait que les deux équipes progressent. Parce que le rugby féminin est encore bas et faut le faire progresser tous ensemble. Et c'est qu'en ayant des partenaires sur le terrain qui fait qu'on augmente tous ensemble ce niveau.
On encourage nos amis de Sancerre, de Bourges, de Châteauroux de nous suivre. Hein. Si demain on a des concurrentes même meilleures que nous qui nous battent, on sera enchantés parce que ça veut dire que le rugby se développe.
Le rugby féminin, oui, je t'écoute numéro 6.
Non, moi j'allais terminer sur cette interview en posant ma dernière question. Comment vous contacter et quel, en gros, avec les valeurs, etc., quel message vous avez adressé pour que les filles qui nous écoutent à la radio, sur Radio Tintouin, viennent dans votre équipe?
Je pense que déjà, il faut enlever tous les stéréotypes qu'on a dans la tête par rapport au rugby qui serait un sport genré, masculin. C'est un sport qui est avant tout un sport d'évitement, un sport d'intelligence et qui correspond tout à fait au tempérament féminin. On le voit, hein, même dans leur façon de jouer, chercher des solutions sans tout le temps aller taper dans un mur. Et là-dessus, je pense qu'on a une petite avance avec les filles parce que justement, on a mis en place ce rugby d'évitement il y a déjà 2 ans. Et se dire que ce sont des aventures qui sont des aventures extraordinaires. Toutes les filles qui ont fait des sports individuels et qui arrivent au rugby sont enchantées parce que justement elles apprennent à se dépasser pour elles, se dépasser pour un groupe. Et en même temps, si on veut revenir sur le lycée, on arrive en seconde, on côtoie des premières, on côtoie des terminales. C'est une transmission, hein, c'est un passage. Lorsque j'étais en première année de fac, je côtoyais des gens qui passaient le CAPES, qui étaient en maîtrise, et on est sur un terrain, la différence d'âge ou de niveau, elle s'abat, elle s'aplanit. Le rugby, j'avais tendance à dire, j'utilise une vulgarité, mais quand on est sur un terrain, on est à poil. Les considérations sociales, elles s'enlèvent. On peut avoir quelqu'un qui est au bas de l'échelle sociale et qui pourtant va venir soutenir l'ingénieur et donner quelquefois plus que lui. Et ça crée, je trouve, des fraternités qui sont assez incomparables quand même. Et des fraternités, et maintenant on peut dire aussi des sœurités, je ne sais pas comment on peut dire. Mais on peut se trouver des sœurs de rugby sans problème.
Tout à fait d'accord. Et toi, Benjamin, un message
crée, c'est une belle aventure. C'est vraiment, qu'on soit grand, petit ou autre, le rugby, c'est fait pour tout le monde. Un petit, il va jouer l'évitement sur un costaud qui va éviter, qui va pas réussir à faire le plaquage, et du coup tu vas être content d'avoir pu passer ça à un joueur soi-disant plus grand que toi. Et même le fait qu'un joueur vient et que tu le plaques alors que t'es tout petit ou que tu sois grand ou autre, c'est vraiment impressionnant. C'est cet apport physique, le fait de toujours surmonter, se surmonter et d'aller plus loin possible avec un groupe à côté de toi, c'est vraiment impressionnant. Aujourd'hui, même une famille qui se crée au fur et à mesure des aventures.
Et pour revenir sur le gabarit, hier, on était en déplacement avec nos U15, on gagne notre finale contre une très grosse formation de Tours, et la joueuse du match, c'était notre plus petite. Elle a traversé le terrain, elle s'est défoncée, elle a fini d'ailleurs, elle était un peu KO, donc elle avait aucun problème, mais on l'a mis un petit peu en réserve pour lui dire calme-toi un petit peu. Elle nous a porté. C'était pourtant la plus petite. Hein. Bonjour Emeline, j'espère que tu vas bien ce matin, mais aujourd'hui.
coucou Emeline, qui doit se reposer actuellement.
Elle se repose. Et donc justement, dans notre groupe U15, on a su aussi, on n'est pas allé les chercher, mais il y a des filles qui sont venues aussi de l'extérieur, qui nous apportent une plus-value, et en fait, on essaye de créer par rapport à ça cette espèce de groupe solidaire.
Et vous sentez par exemple des joueuses qui commencent à avoir un petit peu le goût d'essayer d'entraîner les autres, ou vous sentez par exemple chez les filles des futurs entraîneurs, je sais pas comment on dit, enfin de futurs coachs? Par exemple,
on a des filles qui ont des charismes incroyables. Hein. Donc même quelquefois, elles nous secondent dans notre coaching. Il vaut mieux d'ailleurs que ce soit les filles qui s'encouragent elles-mêmes. Et on a des filles qui
On a une de nos talonneuses, tu vois. On la responsabilise sur des échauffements, sur des trucs, parce qu'elle veut devenir ça plus tard. Donc elle veut de faire un STAPS ou autre. Donc du coup, on les entraîne à faire aussi à progresser dans ce sport. Et même toutes les autres. Elles ont le droit à un moment de parler. C'est ça en fait, c'est que tout le monde peut l'ouvrir dans un club comme ça, dans une équipe. Tu dois savoir te faire ouvrir et dire là, il y a quelque chose qui va pas, et elles parlent toutes. on se doit la vérité et c'est un objectif déjà qu'on s'est mis tous sur le tableau, de toujours se dire la vérité et de ne pas se mentir, c'est important.
C'est de belles valeurs hein, que le sport développe et entraîne face. Vraiment, c'est de belles valeurs.
Bah nous, en tout cas, Radio Tintouin, et dans notre émission Radio Tintouin, on encourage les filles qui nous écoutent à rejoindre l'équipe féminine des SAV, de Stéphane et de Benjamin. On va mettre une petite pause musicale. On parlera Coupe du Monde après.
D'accord. Ouais, Coupe du Monde de rugby, hein, d'ailleurs.
Ah, bien sûr. Deux spécialistes. Ah, bah on a deux spécialistes, on va en profiter.
Oh, spécialiste, c'est un grand mot. Hein.
Oui, enfin, quand même.
Bah oui,
c'est ce que nous, quand même. Ouais, quand même. Alors, on va s'écouter Aslove pour bien la première coupure musicale. C'est So High en featuring avec Norman Jean Martin. C'est bien ça?
Jean Martin, ouais.
Jean Martin, Norman Jean. C'est maintenant dans Résultat 3.
You said it's a game. Cause you know that I'm a skeptic. Acting all defensive. I can't be hurt again. All the same. You're like a psychedelic, can't help but be tempted. I'm stepping into flames, and I feel dizzy when you look into my eyes. Have to tell you what I feel inside. Nobody else's arms could take me from your charms. Oh, 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 oh. You got me feeling like. The heart is not deceptive, it doesn't feel the same, not afraid. They may say we look pathetic, you know it's authentic. Sometimes you can't explain, and I feel dizzy when you look into my eyes. Have to tell you what I feel inside. Nobody else's arms could take me from your charms, oh. These walls will hide away. Our love is real and your body close. What do you feel when my heart goes?
Et vous écoutez Résultat Tintouin, les titres bien de Résultat Tintouin. Les résultats donc, eh bien, le handball avec les Glantines Vierzonaises, et on parle de l'équipe première des filles qui évolue en National 2. Elles ont reçu l'équipe de Celle, et elles se sont inclinées sur le score de 21 à 24. Elles sont 6e de leur classement. Elles comptent 2 victoires pour une défaite. On parle du roller hockey, et ils étaient en déplacement à Angers. Pour leur deuxième match en élite, ils gagnent sur le score de 1 à 5. Et on rappelle qu'à 20h, le 12 octobre, ils recevront Garges. En foot, et on parle du Vierzon Football Club, ils étaient en déplacement à Avoine, un club du haut de classement. Et ils ont gagné en déplacement donc sur le score de 0 à 1. Ils sont actuellement premiers du classement à 14 points, 4 victoires, 2 nuls et donc 0 défaite. Et maintenant, numéro 6, bien, nous sommes avec
avec Stéphane et Benjamin dans nos studios. Et je sais que toi, à la buvette, t'as envie de parler des seniors.
Oui, on parle des seniors, mais juste avant de parler des seniors, on va parler du pôle formation, non, des jeunes.
Eh oui.
Les réserves des seniors. Est-ce qu'il y a une bonne génération qui arrive au niveau des SAV? Alors, on a vu que vous mettiez l'accent sur la formation.
Oui.
Donc, c'est un peu une question en l'air, parce que je pense qu'ils vous les formez très bien.
Bah, disons que nous, on est aussi au niveau de la section sportive. L'année dernière, nous avons obtenu un label supplémentaire. Nous sommes maintenant au niveau du lycée, centre d'entraînement labellisé. Et il n'y a en fait que 3 centres d'entraînement labellisés dans la région. Donc, 2 gros cylindrés, un Chartres et Orléans. Avec des budgets de fonctionnement qui nous font rêver, hein. On est dans des chiffres qui sont de l'ordre de 30 000 ou 40 000 euros. Et nous, en fait, notre budget de fonctionnement, c'est 0 euro. Simplement, ce qui s'est passé, c'est que à un moment donné, on a commencé à reconnaître un petit peu ce qu'on faisait au niveau de la section. Et la Ligue du Centre nous a proposé cette labellisation. Et on a répondu au cahier des charges, ce qui veut dire que maintenant, on a la possibilité de pouvoir accueillir des jeunes qui seraient... un petit peu trop juste pour intégrer des pôles tels que l'ASM, mais qui ont quand même un fort potentiel. Donc ça, c'est intéressant et du coup, ça nous...
Ce qu'il nous faut obtenir surtout, c'est CEL, là, c'est vraiment la mixité qu'on a dans le... C'est vraiment la mixité qu'on a dans le fonctionnement, en fait. Du coup, c'est d'avoir des filles et des garçons dans l'équipe qui fait qu'on puisse se permettre d'avoir la labellisation, en fait.
Et donc au niveau des jeunes, alors on va parler un peu des catégories qu'on connaît parce qu'on les suit... On a une très bonne génération de U14 hein, cette année qui enregistre des bons résultats avec une bonne dynamique. Il y a une catégorie cadet où aussi c'est un excellent travail là, qui est fait par nos copains, là, par Serge, Stéphane et Mika, avec des jeunes qui au départ n'étaient pas très nombreux et qui commencent maintenant à bien s'étoffer. Et une génération junior qui devrait arriver sur le marché des seniors dans peu de temps et qui, pareil, promet beaucoup. Voilà, donc,
que de bonnes nouvelles, c'est bien ça.
C'est nouvelle. Ça, ouais, exactement.
Ben, disons que, voilà, on va dire qu'à Vierzon, on n'a peut-être pas de pétrole, mais on va finir par avoir des idées, à savoir travailler sur le vivier local et se dire qu'effectivement, on n'a pas besoin d'aller chercher l'herbe du voisin parce que la nôtre est suffisamment verte. Et on est sûr que les jeunes qui arriveront vont permettre justement au SAV de revivre... des moments extraordinaires, parce que c'est vrai qu'il y a quand même un engouement considérable hein, de la ville pour Vierzon. Quand on arrive, hein, on parle des Saves, c'est vrai que c'est un pilier d'une institution dans la ville.
Et puis culturellement et historiquement, les Saves, c'est un des clubs les plus importants au niveau sportif de Vierzon.
Exactement. C'est pareil, c'est une rencontre un peu particulière au départ entre des étudiants, là, les Vierzards, là, qui étaient sur Brisson, et puis les cheminots, et puis cette ville ouvrière qui souffre, mais qui tient bon, et qui va finir par, même au niveau du club, qui va finir par se redresser. Il n'y a aucune raison.
On parle des seniors, alors, l'équipe 1, est-ce qu'on a espoir de les revoir en Fédéral 3, voire au-delà, hein, d'ailleurs? Mais bon, on commence d'abord par la Fédéral 3.
Cette saison ou les saisons à venir?
On peut, bien sûr, il y a encore du possible. Après, faut pas essayer de monter trop vite. Faut se permettre de rester aussi en honneur. C'est pas une honte. Faut savoir être à son niveau et rester à son niveau pour le moment, pour pouvoir que ces générations arrivent et qu'ils puissent faire monter ce club.
Attends, excuse-moi, en fait, je faisais le commentateur du football, en fait, c'est ça. Donc là, je vais revenir au rugby. Donc il y a du travail, mais il y a une petite chance.
Grosse chance.
Si le travail se fait correctement, peu de chance, par exemple.
Très correctement. Ah oui. Là, c'est vrai que
l'objectif, c'est la montée alors cette saison, ou c'est de se maintenir en honneur.
Je pense, on va reprendre un peu ce que disait notre président, hein, Thierry Faux. L'objectif, c'est de retrouver le sourire, c'est que les joueurs se prennent du plaisir sur le terrain. Et objectivement, là, sur les deux premiers matchs qu'ils nous proposent, il y a beaucoup d'envie. C'est vraiment très bien, avec des joueurs qui sont restés fidèles à leurs couleurs, qui ne sont pas partis et qui.
Là, il n'y a pas eu trop de départs suite.
Il y a eu des départs.
Bien sûr, mais ça va encore, on a encore un effectif qui est vraiment qui est capable de tenir une deuxième ou une première place d'une honneur.
Ouais, et puis un tempérament, vraiment, ces jeunes qui jouent actuellement, ils nous foutent le frisson, quoi, parce que l'autre jour, là, on a fait une nocturne à contre-arcé, bon, effectivement, c'est peut-être pas l'affiche la plus flamboyante, mais il fallait gagner.
Et c'est pas mieux aussi, quelque part, pour construire un groupe, de descendre d'un niveau et de se donner comme objectif, alors à moyen terme, par exemple, mais une fois qu'il serait arrivé par exemple à monter, le groupe quand même il est plus fort mentalement, plus costaud, plus. Non, c'est si, quand on veut reconstruire, non ?
On avait perdu, en fait, la ville de Vierzon avait perdu le plaisir du rugby. Du coup, on veut des résultats, on veut des résultats, on veut des résultats. Mais avant tout ça, faut l'équipe est là, a envie. Ils montrent tout en Fédéral 2 comme en Fédéral 3. Ils se sont défoncés sur le terrain. Bah, c'est juste pas leur niveau pour le moment. Mais faut qu'ils progressent et ils vont l'atteindre. Ils en sont capables. C'est juste pour le moment, bah, faut jouer en honneur et faut apprendre. Face à des anciens qui jouent en honneur, là, les vieux briscards d'honneur qui sont très durs à jouer. Et on y arrive, et on va y arriver.
Puis l'expérience, ça s'apprend avec le temps. Hein.
C'est ça, il faut du temps, c'est sûr.
On a une équipe jeune, il faut en profiter.
On commence à savoir jouer au rugby quand les jambes ne suivent plus, en fait. C'est souvent ça.
C'est vrai, c'est pas faux.
pour éviter un défenseur, il faut. Faut avoir des cannes hein, quand même. Enfin, bon, bref. Mais bon, bref. Comment dire, un match à nous proposer, ou même une paella. Des fois, les clubs organisent des festivités en dehors. C'est un autre moyen de connaître le club et puis des bénévoles qui y travaillent. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de bénévoles.
Il y a des bénévoles, oui, bien sûr. Mais si vous voulez une belle image du club, venez donc samedi prochain à partir de 13h30. Nos filles reçoivent un plateau en U18 à Robert Baran, donc ce sera la fête à Baran de 13h30 jusqu'à 16h. Et dans le même temps, on a nos cadets, nos juniors, qui reçoivent le Pôle Sologne au stade Constant-Duval. Donc il y aura tous les formats et on va essayer de bien fusionner nos trois catégories pour faire une belle fête du rugby sur notre plateau. Donc là, c'est le moment de voir vraiment l'ADN des Saviersonais.
Donc samedi, tu peux répéter s'il te plaît, 13h30.
13h30, voilà. Donc nos filles doivent jouer à 13h30 contre Blois, à 15h30 contre Tours, et les cadets jouent à 14h contre Pôle Sologne. Et ensuite après, dans le prolongement, ça doit être 15h30 aussi le début du match des juniors.
On se déplacera.
Et là, il faut emmener plein de monde parce que c'est vrai que. Le stade, notamment Constant Duval, c'est le stade un peu historique hein, du club. Je trouve qu'il a une âme, quoi, vraiment. C'est vrai qu'on dit souvent Robert Baran, mais quand on veut faire avec Benjamin, quand on avait des matchs un peu chauds à jouer avec les filles, on dit on veut Constant Duval, parce que le public est proche, on a une ambiance un peu à l'irlandaise, là, c'est. Et vraiment, on sent remonter toute l'histoire du club dans l'engouement que peut avoir le public à ce moment-là.
Et
vraiment.
Et pour ceux qui ne sauraient pas où se situe le stade Constant Duval, c'est juste à côté. Juste à côté, hein.
Voilà.
Sur la droite, hein, voilà. On se met devant le stade Robert Baran, derrière on a la route de Paris, et c'est juste à droite. Hein,
et
c'est
normalement, deux buvettes devraient être ouvertes.
Donc. C'est bon, là.
Bon,
on arrive.
Vous êtes les bienvenus.
Il faut retrouver l'envie d'encourager et tout, faut arrêter de dire on joue mal, faut arrêter de critiquer ou autre, faut venir voir et profiter de ce spectacle. Qu'on perde ou qu'on gagne, vous allez voir des gens se battre sur le terrain, des jeunes là se battent pour ce maillot et pour notre ville. Donc c'est ça le plus important.
À Vierzon, on se dépouille.
C'est ça.
Pour le plaisir du sport. Non mais très bien. Bien merci beaucoup de vous être déplacé dans les studios de Résultat Tintouin. Et nous, samedi, on ira faire un tour.
Bien sûr. Ouais.
On vous attend.
On ramènera l'enregistreur. On essaiera de faire un petit reportage. Bien, merci messieurs beaucoup, merci beaucoup de vous être déplacés dans les studios de Résultat Tintouin.
Un petit mot sur la Coupe du Monde quand même.
Ouais.
Juste, vous allez nous donner un petit peu
vos favoris
et puis votre avis sur cette équipe de France qui pour le moment a gagné ses trois matchs.
En tant que grand expert Résultat Tintouin.
On a quand même deux entraîneurs de rugby, ils vont quand même donner leur et dont un joueur de réserve, ils vont quand même donner leur impression. Ah, ça se bat là. Qui veut démarrer?
Si on veut pas prendre de risque, on va dire que les Blacks ont une longueur d'avance encore cette année. Là, je pense que tout le monde pourrait dire la même chose. On peut attendre, je pense, raisonnablement des équipes comme le Pays de Galles ou même l'Australie qui ont proposé des choses intéressantes, qui sont programmées pour arriver au top au moment des quarts ou des demi-finales. Et puis l'équipe de France créera peut-être la surprise, on ne sait jamais.
Là, je pense maintenant qu'il ne faut plus regarder les prochains matchs de poule. Ça ne va plus être trop. C'est plus calculateur ou autre. Là, maintenant, il faut attendre les quarts de finale. Normalement, la Nouvelle-Zélande devrait jouer contre l'Irlande. Et la Nouvelle-Zélande, le seul moment où on peut les battre, je pense, c'est en quart de finale, clairement. Si l'Irlande a un coup à jouer, c'est à ce moment-là. C'est pour éliminer les All Blacks et pour pas qu'elles soient champions du monde à la fin. Quoi. Mmh.
Et nous, la France, on va tomber soit contre l'Australie, soit contre le Pays de Galles. Stratégiquement, ça serait mieux contre quel pays pour vous?
Moi, je pense le Pays de Galles, parce que l'hémisphère sud, on n'aime pas ça. On n'arrive pas trop à jouer contre eux. À part le All Black, après les autres, on n'arrive pas à jouer contre eux. Le Pays de Galles, encore les matchs, ils sont serrés contre eux. On est encore capable de gagner. Le match qu'on a fait contre l'Argentine, on avait fait le même contre les Pays de Galles, mais on avait perdu à la fin. Mais cette fois-ci, peut-être que, vu qu'on change d'un peu de mentalité, on va peut-être gagner.
Ouais. Je me méfierais beaucoup des Gallois quand même.
D'accord. Et puis je vais vous parler quand même d'un joueur, devinez lequel. Qu'est-ce que vous pensez des performances de Sofiane Guitoun dans cette Coupe du Monde?
Bah, je vais laisser parler le Toulousain, vas-y. Bah,
non, c'est intéressant, il monte en puissance. Là, niveau défensif, il a fait son match. Niveau offensif, il est performant aussi, il perce des lignes, il fait ce qu'il faut. On attend encore beaucoup. Maintenant, c'est Brunel qui peut nous dire s'il va jouer ou pas. Sur les matchs importants, pour le moment, il veut le faire jouer que contre les États-Unis et les Tonga. Il n'a pas fait jouer contre l'Argentine, mais pourtant, on a besoin de lui, je pense.
Avec le match d'aujourd'hui, il aura peut-être sa place contre l'Angleterre la semaine prochaine.
On peut pas être élu meilleur joueur du top 14 et essuyer le banc face aux grosses formations.
C'est sûr.
Dans la meilleure formation française, hein, quand même, Stade Toulousain, c'était la plus belle équipe. C'est lui qui a fait le plus briller son club. Il faut le faire jouer. Quoi,
bah, il manque en plus. Hein. Tu regardes tous les Toulousains, là, il manque. Hein. Ceux qui sont en équipe de France, Toulouse qui sont à la peine et ça va faire du bien quand ils vont revenir. Hein.
Puis nous, c'est notre fierté locale ici à Vierzon, ouais. Quand même. C'est notre fierté locale. Hein. Vierzon en Coupe du Monde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Toujours, ouais. En tout cas, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup pour je vais y arriver, d'être venu ici dans nos studios, et surtout n'hésitez pas à revenir, donner vos analyses, donner les résultats de la saison, et puis nous on vous souhaite le meilleur avec les SAV.
Merci à toi. Merci. 006.
et on fait un coucou à toutes les Vierzonaises qui jouent au rugby, voilà, on leur fait un coucou.
Et à tous. Merci. Les bénévoles.
Et à demain ça. Pour les Vierzonaises à l'entraînement.
On va faire une coupure musicale, on va écouter Boosty avec Smile.
Me caresser les lèvres, ça m'énerve quand le temps venait nous imposer ses règles. Souvent c'était mon excès qui jouait avec tes nerfs. Ma jalousie provenait du fait que ta silhouette hantait mes rêves. J'appréciais ton naturel, ta démarche inaccoutumée. Les gens nous voyaient comme des fous alliés. Ton corps un dessin parfait, tes poignets remplis de bracelets. Parfois je sens l'odeur de ton parfum pour ne pas oublier. On avait l'impression que rien ne pouvait nous arriver. On ne voyait plus nos amis car on surveillait nos arrières. Se moquer des clichés pour casser les barrières. On ne faisait que provoquer quand on parlait de se marier. Je sais que si demain ton chemin recroise le mien, tu aurais envie de me dire que tes sentiments sont les mêmes. Tes pensées étaient miennes car tu as fait de moi un homme. Maintenant quand j'observe la lune, je vois la beauté de ton âme. Every time I see that smile, my life is yours. Next time we kiss the sky we know. If love is not the lie you're looking for, I will let you fly alone and go. Se faire pardonner le lit en guise de bateau, puis on naviguait à travers nos souvenirs comme si on avait l'air de ne pas vouloir penser volontairement à nos projets. Je ne mettais jamais le projet sur les choses que tu me reprochais. Je voulais être proche de nos fous rires au bon moment, je me raccrochais. Tu m'as appelé pour me dire que tu raccrochais. Every time I see that smile, my life is yours. Next time we kiss the sky.
Résultat Tintouin, l'émission sportive de Radio Tintouin. Et on va parler des résultats vierzonais. Eh bien, on parle tout de suite. Allez, on change. On parle du foot avec le Vierzon Football Club qui s'est déplacé à Avoine et qui est allé chercher la victoire sur le terrain d'Avoine. Voilà, Avoine Chinon. Ils sont premiers du classement, le Vierzon Football Club, à 14 points. Ils n'ont pas connu encore la défaite depuis le début de la saison. Ils comptent 4 victoires pour 2000. On parle du roller hockey avec les Prédateurs qui étaient en déplacement à Angers. Ils ramènent la victoire sur le score de 1 à 5. Donc victoire de l'équipe qui pratique le roller hockey. Et on rappelle qu'à 20h, ils recevront Garges. On rappelle que le roller hockey évolue en élite depuis cette année. Handball, et on parle des filles qui évoluent en National 2. Eh bien, elles ont reçu à la maison Celles-sur-Cher. Elles ont connu la défaite sur le score de 21 à 24. Elles sont 6e de leur classement. Elles comptent 2 victoires pour une défaite. Et on rappelle, le 19 octobre, elles seront en déplacement à La Rochelle. Voilà, monsieur, résultat en numéro 6, Gol Orange qui nous rejoint parce que eh bien on n'a pas de micro en ce moment. Ça va, Gol Orange?
Ça va, tranquille.
Tranquille, voilà, je baisse ton micro. Voilà,
ça va tranquille.
Ça va tranquille. Paris a gagné 4-0 ce week-end.
Oui, c'est vrai.
Voilà, donc on a parlé rugby avec les deux invités de numéro 6, Stéphane et Benjamin, si c'est bien ça. Hein.
C'est ça, c'était un grand plaisir.
Voilà, donc on ira certainement se déplacer. Sauf bien cas de force majeure à partir de samedi 13h30 pour le match des féminines en rugby.
C'est ça.
Voilà, on va parler, on fait une petite page internationale avec numéro 6.
Non, oui, ouais. Bien sûr que si, c'est
allez,
parti.
C'est parti.
Bon, on va quand même démarrer en parlant. On va commencer par Mandanda. Hein. Pourquoi je parle de Mandanda?
Parce qu'il a
eu un petit peu de chance quand même.
Parce que Lloris s'est blessé, malheureusement, et ça sera Mandanda qui sera gardien numéro 1 de l'équipe de France. Qu'en pensez-vous?
Alors moi j'ai entendu que c'était pas Printemps du tout, mais Maignan qui était numéro 1.
Non,
il a été pris à la place de Lloris.
D'accord.
C'est ça.
D'accord. Le Marseillais en grande forme remplacera Hugo Lloris dans les buts des Bleus après avoir été écarté des deux derniers rassemblements.
Vous en pensez quoi, messieurs, numéro 6? Moi je trouve que
c'est mérité.
Il est revenu à son meilleur niveau. Hein,
c'est ça. Et d'ailleurs, Marseille, malgré la défaite contre Amiens, je pense que c'est quand même le sauveur. Hein. Plusieurs fois, sur plusieurs actions, Mandanda. Et je peux le dire, il y a un problème de défense dans cette équipe de Marseille. Et heureusement qu'il y a Mandanda derrière, sincèrement.
Et c'est aussi pour ça qu'on le voit beaucoup et faire beaucoup d'arrêts, parce que la défense est assez perméable du côté marseillais.
Pour Lloris, c'est un coup de dur.
Bon orange là-dessus.
Après, tant mieux pour Mandanda qui mérite largement. Après, faut voir sur la saison parce que Lloris, faut rappeler que c'est une luxation du coude qu'il a eu. Ce qui veut dire que ça va durer pour pas mal de temps. On en a passé pour 6 mois déjà pour Lloris. Après, il va falloir.
Ah, 6 mois quand même.
Ah, il y en a déjà minimum pour 6 mois, sûr.
D'accord.
C'est 2 à 3 mois.
2 à 3 mois ?
Ouais, 2 à 3 mois.
Enfin, ils savent pas vraiment dans les luxations comment ça se remet bien, comment les tendons.
Selon l'équipe.
Oui, selon l'équipe. Faut qu'on demande à un médecin d'ailleurs.
Alors, l'argument qui est trop nul, mais 2 à 3 mois.
Non, mais.
Si c'est l'équipe qui l'a dit, c'est selon l'équipe.
Oui, non, mais ils ont des. Mais c'est vrai que, comme dit Golorange, on peut pas. C'est pas comme un claquage ou une lésion musculaire.
Sorti au poste de gardien où la rééducation va déjà être un petit peu plus longue parce que faut rappeler qu'il va perdre du volume au niveau du bras gauche, il va pas avoir la même force dans la main gauche que dans la main droite, alors là déjà ça va être plus compliqué pour Lloris. Après il va falloir voir sur la durée qu'est-ce que ça donne, parce que maintenant les trois gardiens français ça va être Mandanda, Areola et Mac Maignan. Faut voir si Mandanda continue sur la durée toute la saison. Areola pour l'instant sur ses deux premiers matchs avec le Real de Madrid commence assez bien. Il a certes provoqué un penalty hier face à Grenade, mais il commence déjà assez bien. Après pour moi Mandanda est numéro 1 sans aucun avis. Pour moi c'est le premier.
Sans aucune contestation.
Oui, c'est ça, oui, parce que sinon ça veut rien dire.
mais
pour moi, pour l'instant, Mandanda est premier, mais après, il va falloir quand même voir le duel entre Mandanda et Areola qui pourrait être assez compliqué.
Après, mais Areola, selon l'équipe, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est l'équipe. Hein.
Ah.
Areola ne rassure pas. Je cite, titulaire, le gardien du Real a commis une erreur, comme tu l'as expliqué, Goulorange, qui a relancé Grenade hier en championnat 4-2. Bon, il ne rassure pas quand même Areola.
Ouais, il rassure pas, mais c'était le score était 3-0. Hein.
Moi, j'aurais mis Gol-Orange, perso.
Ouais, mais Didier a pas son numéro, en fait. Il arrête pas de me joindre, mais il l'a pas. En tout
on
cas.
Dit pas de gros mots à la radio, mais quel connard, Didier.
Non. On l'aime beaucoup, Didier. Non, mais il y a un petit jeune qui s'appelle, qui est gardien à Monaco, qui est pas si mal que ça. Hein.
Le Comte.
Voilà, le Comte est bon. Mais, enfin, quand on voit les performances de Monaco, très honnêtement, moi je trouve qu'il est très bon ce gardien-là, et puis il pourra peut-être bien passer.
Oui.
Mandanda pourra passer le relais à Le Comte. Il y a un autre gardien que j'aime beaucoup. Là, par contre, je suis en train de le dire, mais je doute qu'il soit français, je sais pas. Le petit Lafond.
Oui, moi aussi, il est français.
Il est français, il est très très
et
fort.
C'est un des grands avenirs du football dans les buts. Faut rappeler qu'il a commencé en tant qu'attaquant, Alban Lafond. Il était attaquant de base avec Toulouse. Et il a terminé dans les buts car il manquait un gardien pendant un match et ils l'ont fait jouer dans les buts.
C'est une belle histoire.
Il devait pas être super fort en tant qu'attaquant. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est un très bon gardien parce qu'on rappelle, hein, Loris, sur ses deux dernières sorties, qu'est-ce qu'il a pris comme but, hein,
bah, en total,
on prend 7 hein, en Ligue des Champions.
Et 8 en comptant le but de Lloris avant qu'il sorte. Ça fait 8 buts en 2 matchs, ce qui est un des pires ratios de Lloris depuis le début de sa carrière.
Donc quelque part, cet arrêt maladie tombe à point nommé pour Lloris.
Le malheur des uns fait le bonheur des Français. Des autres. On continue sur la page internationale. Je voudrais... Gol-Orange, je sais qu'il aime bien le championnat allemand, un petit peu, non?
Ria, Vol.
Ah, ok. Vas-y. Artum, je vais parler un tout petit peu.
Artum.
Alors, juste pour dire, quand même, j'aime bien le championnat, moi aussi, parce que on a quand même 6 clubs qui sont au même nombre de points. On a même 14 points en 7 journées. Bah, je trouve que c'est super intéressant.
De quelle place à quelle place?
De la première à la 6ème place.
D'accord.
Je veux dire, et le 7ème, Dortmund, qui est à 12 points. C'est-à-dire qu'il y a le Bayern, Fribourg, Leipzig, Schalke 04, Leverkusen et Mönchengladbach, 14 points en 7 matchs. Enfin, il est beau le championnat.
Oui, il est beau. Ouais.
Je veux dire, tout est possible.
C'est vrai que tout est possible. Après, pour moi, comme j'ai dit, c'était la semaine dernière. Non, c'était il y a 2 semaines qu'on était au forum des associations.
C'est ça, ouais.
J'avais dit pour moi que le premier cette année, ça allait être une grosse surprise, ça allait être Leipzig. Mais après, il faut voir ce que ça va donner sur la suite.
C'est pas impossible. Surtout que Gol-Orange se trompe rarement, et puis moi je l'ai dit, je l'ai promis dans cette émission, quand j'ai tort, j'ai tort.
On parle de Champions League là tout de suite.
Et c'est vrai que Galatasaray a perdu contre le Paris Saint-Germain.
À domicile,
je me suis trompé. Voilà.
Voilà. Après, ils ont perdu sur le but, sur 1-0, mais ils auraient pu en prendre plus hein, quand même.
Ouais, oui. Sur le but de
Mousselera qui a fait vraiment un très très gros match.
Gol-Orange, tu nous parles un petit peu de Champions League, ce qu'il fallait retenir durant cette Champions League, parce qu'il y a beaucoup de clubs engagés.
Sans problème.
Et je t'en prie.
On va parler.
Ça fait trop rire.
Il est sympa, Gol-Orange.
Ouais. Sans problème.
Il est là.
On fait ça.
Ça fait une demi-heure qu'il attend pour faire sa page. On va quand même lui laisser faire.
On va déjà commencer à parler avec le groupe E, le groupe de Liverpool et de Naples, où Liverpool s'est fait très très peur il y a 3 jours maintenant face à Salzbourg. Ils menaient 3-0 à la mi-temps et ils se font rattraper à 3 partout, mais ils réussissent grâce à Mohamed Salah à gagner 4-3. Liverpool qui est pas très rassurant en ce début de Champions League, on va pas se mentir. On a connu un meilleur Liverpool que ça quand même.
Par contre, en championnat, c'est autant de matchs avec autant de victoires.
Même hier, qui se sont fait quand même aussi un petit peu peur hier face à Leicester. Ouais. Ils ont eu chaud.
Et Leicester qui joue dans le haut de tableau hein, en ce moment.
C'est ça. Troisième de la première ligue, juste derrière City. Après, on va parler du groupe B, le groupe du Bayern Munich et de Tottenham avec cette humiliation du Bayern. Chez Tottenham, au Tottenham Hotspur Stadium, une victoire 2-7, c'est quelque chose qui n'était pas arrivé encore pour Tottenham à domicile de se prendre autant de buts. C'est une première, et même pour un gardien français comme Lloris, c'est une première qui se prenne autant de buts sur un match de Ligue des Champions. Tottenham qui est assez mauvais en début de saison, on va pas... C'est la vérité.
Aussi en championnat.
C'est en championnat qui est vraiment très très mal parti. Après, il faut voir ce que ça va donner sur la durée de la Ligue des Champions, que ce soit sur la durée du championnat, mais c'est très très mal parti.
Est-ce que tu as retenu la performance
de Serge Gnabry
au Bayern de Munich, qui est pour moi
un très très grand espoir.
Ses buts sont très très jolis. Hein,
ils sont très très beaux. C'est
en dehors de la surface, grosse cacahuète, et ça rentre. Hein.
Un quadruplé, il faut rappeler que c'est un joueur qui a été formé dans un ancien club, dans l'autre club de Londres, qui est Arsenal, qui est un des ennemis jurés de Tottenham.
Ouais.
Et sur Twitter, il a fait une petite... il a un petit peu charrié Tottenham en faisant « Ce soir, Londres est en rouge ». Du Bayern de Munich.
Il met 4 buts à Tottenham.
C'est permis. Après, on va parler du dernier groupe de cette Ligue des Champions, qui est le groupe H, le groupe de Lille, de Chelsea, de l'Ajax et de Valence. Lille qui n'y arrive toujours pas à domicile face à Chelsea, pourtant qui en fait un très bon match. Mais Lille qui n'y arrive toujours pas. Les joueurs de Christophe Galtier qui n'y arrivent pas. Après, les joueurs de Frank Lampard de Chelsea ont été très 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 bons encore sur ce match. Ils ont réussi à montrer quelque chose d'autre.
T'as vu un peu de mieux, toi, de la part de Lille
Un petit peu, ouais. Oui, il y a quand même un petit peu. Il y a une amélioration. Après, comme a dit Christophe Galtier en après-match, c'est avec l'expérience que ça joue, et Chelsea a l'expérience, et pas Lille qui dispute très rarement une Ligue des Champions. Leur dernière, c'était quand même en 2012, faut le rappeler. Pour Lille, pour moi, je les avais dit quatrième de leur groupe. Pour moi, ils seront quatrième, mais ils vont quand même essayer de se battre jusqu'au bout. Et c'est ça qui est bien.
Bah, très bien. On parle de Lyon, non ?
On va parler après de Lyon. Avant, on va juste parler du FC Barcelone qui a joué face à l'Inter de Milan.
Tout à fait,
qui était le choc de cette deuxième journée de Ligue des Champions.
Ouais.
L'Inter qui avait très très bien commencé leur match à la deuxième minute avec l'ouverture du score. Pour l'Inter de Milan, oui, numéro 6.
Ah non, vas-y, continue. Moi, je voulais juste dire que l'Inter de Milan, quand même, est invaincu dans leur championnat en Serie A.
Et on rappelle leur entraîneur Antonio Conte.
Et c'est ça, et ce soir, ils jouent contre la Juventus, ça va être un très gros match.
Ça va être un très très beau
C'était
match.
C'était juste ça ce que je voulais
D'accord.
dire.
D'accord.
Voilà, c'est tout.
Et le FC Barcelone, grâce à Luis Suarez, qui s'en sort avec un doublé de Luis Suarez. Le FC Barcelone qui aussi n'est pas très très rassurant ce début de championnat espagnol. En Ligue des Champions, il commence un petit peu à reprendre des couleurs. Mais pour eux, c'est encore aussi un petit peu compliqué, mais ça commence de plus en plus à s'améliorer du côté du
FC. Tu pensais pas que c'était un test, en fait, contre l'Inter, une équipe qui tourne quand même en championnat avec grand entraîneur.
Pour eux, c'était un test, surtout que l'Inter, en ce moment, est pour moi supérieur. Et supérieur, ils ont réussi à montrer une autre facette de leur jeu, et c'est ça qui est très bien pour moi, je trouve, du côté du FC Barcelone.
On parle de Lyon ?
On parle de Lyon qui réussit, ce n'est pas un exploit, mais... qui réussit à vaincre Leipzig à domicile. Oui,
tes souhaits.
C'est pas grave. Leipzig.
Faut pas faire des noms compliqués comme ça aussi.
Non, c'est la prononciation allemande, mais c'est pas grave. Donc Lyon...
qui bat à domicile, tu peux le dire.
Leipzig.
Merci. 0-2, 2-0. C'est une très très bonne performance de Lyon, surtout que je les voyais pas s'imposer en Allemagne. Bah, je pense que pas grand monde les voyait quand même s'imposer en Allemagne, car... Leipzig.
C'est ça.
Super.
Merci.
Et il progresse. Super.
Je rappelle que je suis un peu enrhumé quand même. C'est pour ça. Qui a un public vraiment très très bouillant quand même. Qui a un des meilleurs publics d'Allemagne. Après, Lyon a vraiment réussi à montrer quelque chose de mieux. Et c'est ça qui est très bien pour Lyon. Ils sont deuxième de leur groupe, juste derrière le Zénith. Ça se joue. Bah, ils ont la même différence de but en plus. Mais ça se joue à rien. Bah, ça va se jouer à rien du tout. Pour moi, dans ce groupe, ça va être l'un des groupes à surveiller quand même pour les clubs français.
Merci Colorange pour ta page Champions League. Ouais, très belle page. Et maintenant, on va parler de Ligue 1.
Allez.
Pam 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 pam. Ligue 1. Waouh. Et donc,
j'adore ce jingle.
Ah ouais. Un petit mot sur chaque match qui se sont joués. Amiens recevait Marseille et Amiens a gagné sur le score de 3-1. Une petite analyse, un petit commentaire, rien du tout.
Ouais, mérité pour Amiens, sincèrement. Par contre, moi je ne comprends pas. Et ça m'énerve par contre. Pas parce que c'est Marseille. Non mais ça m'agace à un point, tu t'imagines même pas.
Qu'est-ce qui t'agace ?
C'est le penalty. Comment ça se fait que Germain, la faute soit pas sifflée sur Germain et qu'après l'entraîneur siffle la faute de Caleta Car sur l'attaquant amiénois ? Moi, je suis désolé, il y a aucune différence entre les deux actions. Alors oui, je suis pas entraîneur, oui, je suis qu'un petit animateur de Radio Tintouin, mais Sinegouvou, elle a la même analyse que moi. Enfin, je veux dire, on a dit la même chose au même temps, moi devant ma télé, vu de même.
C'est incompréhensible parce que la faute est la même. Bon, après
ça change tout le match.
Oui, on est d'accord.
Il y a des chances que ça soit ton âme sœur.
Non, mais ça change tout le match.
Oui, on est d'accord.
Et franchement, 3-1, bon, ok. Bon, je dis pas qu'Amiens, je dis pas que Marseille méritait de gagner. Mais ça, ce penalty-là change tout le match. Et ça, franchement, ça m'énerve parce que le foot, c'est énormément de scénarios, c'est énormément de détails. Et ça, scénario, ça enlève 3 points à l'Olympique de Marseille.
Après, Amiens qui bien gagne contre Lyon et qui gagne contre l'Olympique de Marseille. Voilà, c'est à domicile, ça reste costaud. Pour moi, ils ont monté une marche depuis l'année dernière, quand même.
Amiens, je trouve ça quand même quelque chose de très bien. Amiens qui avait eu un petit peu de mal quand même en ce début de saison et qui a réussi quand même, comme l'année dernière, à essayer de taper les plus gros. Là, pour moi, c'est vraiment très bien pour Amiens qui est 13e. Si je ne me trompe pas, 13e, 11e.
Ouais,
qui, bah, c'est, pour moi, c'est très bien, surtout qu'on est à la 7e journée. 8e même, c'est vraiment quelque chose de bien pour Amiens quand même.
9e.
9e déjà ?
Ouais, 9e déjà, le temps passe vite.
Ça passe vite.
Ouais, tout à fait. Ça passe. On parle du match qui opposait Brest à Metz, c'est bien ça ?
C'est ça.
Et 2-0 pour Brest.
Très belle performance pour Brest, hein, 2-0 à domicile. On rappelle que Brest, maintenant, ils sont 12e au classement. Alors que Metz, par contre, c'est pas la joie, hein. Ils sont 19e au classement avec 8 points.
Pourtant qu'ils avaient très bien commencé la saison, Metz.
C'est vrai, ils avaient très bien commencé leur saison. On rappelle que Brest, ils sont promus, tout comme Metz.
Oui,
et c'était un match de promus, et voilà.
C'est ça, et en plus Brest, qui est devant Lyon et Monaco au classement, faut le rappeler, avant le derby de ce soir.
C'est vrai.
Faut quand même le rappeler. Après, ça va être compliqué pour une équipe comme Brest, mais je les vois quand même Nîmes la saison dernière. Je les vois se maintenir et plutôt être bien placé pour moi. Je trouve.
Qu'est-ce que t'en penses, la buvette ?
Plus les matchs défilent, plus on voit que Brest c'est une équipe qui est costaude au niveau défensif et qui arrive à arracher et à mettre des buts. Peu académique certes, mais en tout cas, oui, ils sont là. Et c'est vrai que Metz, ça reste inquiétant quand même quelque part, voilà. Mais moi je vois bien Brest se maintenir et Metz j'ai quelques doutes quand même. On parle de PSG Angers, PSG qui a gagné chez lui 4-0, nickel contre le numéro 2 du classement quand même.
Oui, pour moi il n'y avait pas vraiment de surprise, même si Angers est une équipe solide en ce début de saison. Il faut rappeler que Angers avait quand même pris 6 buts à Lyon. Après, c'est quand même une équipe qui a été quand même assez solide dans ce début de championnat, Angers, mais bon, Paris, c'est quand même Paris, et à domicile, la plupart du temps, ça fait mal. Et ils ont quand même ils ont accroché un très bon résultat pour moi, même si le match était quand même un petit peu ennuyant à mon goût.
Mais moi aussi, c'est quelque chose là-dessus, non ?
Non, moi, j'ai pas regardé le match, j'ai regardé juste le résumé, et puis bon, bah, c'est un score, une victoire sans appel, hein, pour le Paris Saint-Germain.
Ouais, et puis très honnêtement, Angers qui a pas fermé le jeu, qui a pas forcément cherché à ramener le 1 partout, tout comme Brest et Amiens, moi je trouve qu'il y a du fond de jeu à Angers quand même, c'est une bonne équipe, ça joue, et ça joue avec ses qualités. Et moi j'ai vu du côté du PSG un joueur que je connaissais pas trop qui s'appelle Sarabia, moi je trouve excellent quand même comme joueur,
ouais.
Très discret, etc. Même si Neymar a fait le show pendant ce match là, mais Sarabia quand même il est très fort.
J'avais dit à la première de résultat cette année que Sarabia allait être un des grands joueurs du mercato estival. On ne l'a pas vu du tout en ce début de championnat. On l'a vu se réveiller face à Galatasaray. Et pour moi, qu'il mette un but et qu'il fasse 2 passes décisives face à Angers, ça montre que ce joueur-là s'est réveillé. En plus, il a un très très grand talent. Et pour moi, je pense qu'il va montrer que du positif jusqu'à la fin de la saison.
On parle de Nantes qui recevait Nice et Nantes s'est imposé sur le score de 1-0. Nice, Nantes qui remonte à la deuxième place du classement d'ailleurs.
C'est ça que j'allais dire, bravo. Franchement, c'est la première fois que ça arrive en Ligue 1 depuis sa création. Mais ils ont mis que 9 buts cette saison. Donc je veux dire, offensivement, c'est pas extraordinaire. Mais ils gagnent des victoires 1-0, des petites victoires comme ça.
Et ils prennent pas de but ?
Ils prennent pas de but et c'est comme ça qu'ils sont à la deuxième place. Et Nantes réalise un très très bon début de saison.
Merci ouais. Christian Gourcuff. Hein,
quand même. Et si je m'abuse, ouais. c'est un des meilleurs débuts de saison de Nantes depuis 2003 ou 2004.
Ah oui, c'est incroyable, depuis plus longtemps que ça, je pense.
C'est ça.
On parle de Montpellier qui recevait Monaco. Montpellier s'impose sur le score de 3 à 1.
Montpellier, hein, on va
ça s'est joué très vite hein, d'ailleurs. Hein.
Montpellier, c'est Delors, Mollet et Laborde. Voilà.
Mollet qui
en attaque après, ils défendent tous. Enfin, ils ont une équipe qui défend, qui blinde, etc. Et après, bah, c'est vrai qu'il y a trois bons attaquants. Delors qui sur un petit nuage, on va dire, même s'il attaque beaucoup, puis il a beaucoup de déchets, mais en tout cas, voilà.
Delors au pied.
Ouais, il a aussi Delors au pied. Monaco qui met un but à la fin, c'est anecdotique, avec Ben Yedder, hein, vraiment un buteur de City Stade. Hein. Parce qu'il fait un petit lob magnifique sur le gardien toulousain, Montpellierin. Un peu peur pour Monaco ou
non, c'est pas grave. Non, plus maintenant. Comme on en avait parlé en début de saison, pour moi Monaco, ça allait être très difficile, mais il serait pas relégué en Ligue 2. Pour moi, c'est une équipe qui commence à être de plus en plus agréable à voir jouer.
Ah, franchement, Montpellier-Monaco, enfin, il y a rien du côté de Monaco pour la première mi-temps. Oui. Rien du tout. Hein.
Mais ça commence quand même à une équipe de plus en plus agréable à voir jouer car le collectif est petit à petit en train de se forger de plus en plus. Ça va être compliqué, certes, ça va vraiment être compliqué, ça faut pas se mentir. Mais c'est plus facile que l'année dernière pour eux. Ils vont terminer en deuxième partie de tableau pour moi, mais ça va être un peu plus agréable à voir jouer que l'année dernière quand même.
Espérons-le. Aussi un match qui s'est joué très très vite dans les premières minutes de ce match-là. Toulouse qui recevait Bordeaux et Bordeaux s'impose au stade toulousain sur le score de 1 à 3 avec deux buts qui arrivent tout de suite en début de match. Notamment Depréville, très impressionnant.
Depréville a exprimé à la fin du match que c'était depuis qu'il est dans le club bordelais, c'était la meilleure performance qu'ils ont réalisée collectivement en première mi-temps.
Bordeaux 4e du classement. C'est anecdotique ou ils ont les moyens de défendre leur place?
Non, c'est pas anecdotique. Pour moi, ça y est, Bordeaux commence à renaître de ses cendres. C'est une équipe qui a eu vraiment beaucoup de mal depuis 2013. Qui a eu beaucoup de mal. Faut rappeler que leur dernière participation à l'Europa League, c'était en 2013-2014. Il faut vraiment voir Bordeaux maintenant comme un des concurrents sérieux pour le top 6. Pour moi, maintenant, Bordeaux va faire partie du top 6 intégrant de la Ligue 1.
Et pour finir, Dijon qui recevait Strasbourg. Et Dijon s'impose sur le but de Dijonais, d'ailleurs, sur le score de 1 à 0. Ouais. Vous en pensez quoi?
Dijon, ça leur permet de se sauver un tout petit peu. Ils restent 18e, mais ça permet quand même d'engranger des points importants. 3 points, c'est important dans le football.
Et ça joue à Dijon, hein. Il y a vraiment un fond de jeu quand même. Hein.
Ouais, qu'est-ce que t'en penses toi de cette équipe?
Moi je pense que Dijon, là en ce moment, est en train de développer leur jeu. J'ai un petit peu peur pour Strasbourg, mais en tout cas, Dijon sont bien partis pour rester en Ligue 1 cette année parce que vraiment ils ont un fond de jeu. Ils ont des attaquants, des défenseurs, enfin bon, bref. Ils ont les moyens de se défendre, ouais. On rappelle juste, cet après-midi, le LOSC a reçu Nîmes et ils ont fait match nul sur le score de 2 à 2. Hein. C'est Gol Orange qui m'a dit ça.
Ouais, d'accord.
Ce soir, un petit pronostic, hein, c'est notre dada. Avant que je rappelle les scores de...
Pénalty pour Lyon ce soir.
Pénalty pour Lyon ce soir.
Bah oui, parce que c'est Turpin qui arbitre le match.
Ah bah oui, ça c'est sûr. Ah oui, ça aussi. Moi, je suis d'accord avec numéro 6. Non, si, je suis d'accord.
Non, mais c'est très dur de faire un pronostic sur ce match. Très, très dur. Pour moi, je vois le match ennuyant
de dernière journée.
C'est jamais ennuyant à Saint-Etienne-Lyon. Il y a toujours un truc qui se passe.
Mais celui-là, je le vois pas arriver. Sérieusement. Ouais. Pour moi, là, c'est deux équipes depuis le début de la saison en Ligue 1 qui sont pour moi ennuyantes à voir jouer. Mais vraiment. Ça va se terminer sur un
0-0. 3-0, le premier match de Lyon. 3-0 contre Monaco.
On est juste à la 9e journée. Ça fait quand même 7 journées qu'ils n'ont rien fait quasiment en Lyon.
Ouais, mais ce que je veux dire par là, c'est que Lille peut marquer des buts, beaucoup de buts. Le problème, c'est qu'ils n'en marquent pas tout le temps. Ils ne sont pas toujours là à marquer des buts et à avoir un beau jeu. Mais ils peuvent se réveiller contre Saint-Etienne. Non,
oui, mais pour moi, ça va quand même être un match qui peut-être qu'il va être beau à voir, mais il ne sera pas fou. Il sera pas fou, vraiment.
Bon,
moi, pour moi, je
soir,
vois
hein.
soit un 0-0 ou un partout. Certes, tu vas avoir
match nul, alors.
Pour moi, ça sera tendu. Ça sera tendu, ça, par contre. Ça peut être sûr, comme tous les derbys Saint-Etienne-Lyon. Mais ouais, je vois un match nul ce soir. Un partout pour moi.
Et toi, la Buvette?
Vu que Puel a été nommé à la tête des Verts, les Verts vont aller chercher le 0-0 hein, pour reconstruire quelque chose derrière. Et est-ce que Lyon est capable de marquer contre les Stéphanois? On verra. Et je pense que les Stéphanois ont beaucoup d'orgueil pour essayer de gagner contre Lyon. Mais en tout cas, malheur au vaincu hein, pour ce match.
Malheur au vaincu, moi je vois bien une victoire lyonnaise quand même, parce qu'on rappelle que Saint-Étienne n'a pas ruffié ce soir. Ouais. Et ça y joue beaucoup.
Ouais. Il n'y a pas Ruffier.
Non, il est blessé, Ruffier. Donc main, il est ouais. remplacé par.
Ah Moulin. Oui, c'est vrai qu'il est. Ah bah alors, oui, bah alors victoire de Lyon 1-0. Bah aussi. Ah bah si, bah c'est qui? C'est Moulin qui prend le relais?
C'est ça.
Ouais, bah alors oui, victoire 1-0.
Et on va rappeler les scores bien des équipes engagées en National à Vierzon. On parle du handball et on rappelle que les filles évoluant en National 2 eh bien, ont connu la défaite à domicile sur le score de 21-24 contre l'équipe de Celle. En roller hockey, on rappelle la victoire en déplacement à Angers des Prédateurs. On rappelle que le 12 octobre à 20h, ils réceptionneront l'équipe de Garges. Et en foot, eh bien toujours le Vierzon Football Club est toujours invaincu. Ils ont ramené la victoire d'Avouen Chinon, merci, sur le score de 0-1. Ils sont premiers au classement à 14 points.
Bravo.
Et bravo au Vierzon Football Club. Et on en parlera un peu plus bien le week-end prochain.
Puis encore merci à Stéphane et Benjamin d'être venus dans nos studios.
Voilà, on essaiera de faire un reportage samedi à 13h30 pour les filles qui font du rugby à Vierzon, rappelons-le. Et nous, on sera là bien à partir de dimanche 17h.
Ouais, c'est bien ça, comme toutes les semaines.
Comme tous les dimanches.
Ah, c'est comme tous les dimanches. Eh bien, la semaine prochaine.
On a un petit peu dépassé le temps, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, c'est pas grave.
Ah, nous avons une étrangère dans les studios. Il a eu peur que je dise une connerie. Du coup, il a coupé mon micro.
Bon, à la semaine prochaine.
Allez, à la semaine prochaine, c'était Résultat 3.